À 8h pour le prochain rappel des titres. Et Louis Dauphresne, votre grand témoin ce matin, et le frère dominicain Adrien Candiard. Il publie non pas un essai, mais bien un roman. « Maman voudrait que je croie en Dieu », c'est aux éditions du Cerf.
Oui, il appartient à l'Institut dominicain d'études orientales, le frère Adrien Candiard. Il est de passage à Paris, alors on le reçoit agréablement. Bonjour frère.
Bonjour.
On va se poser une question. Le carême est-il le ramadan des chrétiens? Tenez, comme vous vivez en Égypte, je me suis dit que cette question, vous pouvez y être sensible, d'autant que dans vos écrits, me semble-t-il, vous essayez de rapprocher le public qui vous suit d'un certain nombre de questions essentielles, peut-être aussi pour déminer des malentendus, ainsi que vous l'avez déjà fait dans plusieurs lettres. Et puis là, avec donc ce roman qui s'appelle « Maman, on voudrait que je croie en Dieu », vous prenez le cadre d'une retraite de confirmation pour faire passer quelle idée, en fait, précisément, frère?
Alors précisément, c'est un roman, et un roman, c'est pas fait pour faire passer une idée. C'est pas un essai déguisé en roman où j'essaierais de manipuler les personnages pour qu'ils disent ce que j'ai envie de leur faire dire. Ils vivent leur propre vie, mais en tout cas, c'est l'histoire d'un garçon de 15 ans qui va à cette fameuse retraite de confirmation, contraint et forcé par sa maman, qui veut absolument, qui se met la pression pour lui transmettre la foi, et lui n'a pas du tout envie d'y aller. Et puis, heureusement, il va vivre son propre cheminement de foi.
Ça a été votre cas ?
Pas du tout. C'est pas du tout autobiographique. Mais c'est, je pense que ça arrive en revanche de temps en temps à quelques adolescents de subir la pression de leurs parents qui veulent à toute force leur transmettre la foi. Parce que cette pression, les parents se la mettent eux-mêmes. Pour être de bons parents, ils essaient de réussir dans ce défi qu'est la...
Ils en font trop ?
Je peux pas leur jeter la pierre parce que chacun fait ce qu'il peut. Mais, et c'est important de vouloir outiller ses propres enfants avec ce qu'on a à donner, on veut donner ce qu'on a de meilleur, mais quoi qu'il en soit, on n'est jamais comptable du résultat dans la transmission de la foi. Ça se joue entre l'enfant et Dieu.
Mais est-ce que vous avez l'air de dire que la pastorale doit être revue, révisée, améliorée ?
Pas tellement, parce que au fond, ce qui va se jouer pour Guillaume, le personnage central du roman, c'est sa vie avec Dieu. Heureusement qu'on d'ailleurs a accompagné, qu'il y a sa mère, qu'il y a ce cadre-là qui lui essaie de lui donner des outils. Mais l'essentiel ne va pas se jouer là-dedans. L'essentiel n'est pas dans les plans qu'on met en place. D'ailleurs, aujourd'hui, en ce moment, les évêques sont en train de lire les nombreuses lettres de jeunes et de moins jeunes qui demandent le baptême et qui seront baptisés à Pâques. Et ils voient bien que ces nombreuses demandes qui se multiplient depuis quelques années en France ne sont pas le résultat d'un plan des évêques de France pour augmenter le nombre de baptêmes. Tout ça intervient parce que...
Mais comment le sait-on ? Parce que les jeunes le disent ?
Parce que les jeunes le disent. Quand vous parlez avec les évêques, justement, c'est intéressant ces lettres qu'ils reçoivent dans lesquelles les catéchumènes expliquent leur parcours de foi et comment ils en arrivent à demander le baptême, on voit bien que ça n'est pas le résultat d'un plan. Ce qui montre que peut-être ça vient bien du Seigneur.
Frère Adrien Candiard, vous aimez la forme épistolaire, hein, me semble-t-il. Vous êtes déjà attaché à écrire des lettres sous forme de questions-réponses?
Je ne crois pas.
Non,
non.
Par le passé?
Non, non.
Alors citez-moi quelques ouvrages que vous avez écrits, rappelez-moi. Vous étiez venu parler du fanatisme, ça je m'en souviens.
Oui, tout à fait.
Et vous aviez, je crois, lettre à un ami...
Non, lettre à Philémon, mais c'est sur... Enfin, à Philémon, plus exactement, oui. Mais c'est sur une lettre de saint Paul.
Oui, mais...
Mais moi, c'est pas du tout sous la forme de lettre.
D'accord.
Voilà, mais c'était sur... Mais saint Paul a écrit des lettres, comme vous le savez.
Mais ça peut être un genre...
c'est un genre tout à fait appréciable, mais de fait, j'ai jamais écrit de roman par lettre.
Ni d'essais.
Mais peut-être une prochaine fois. J'ai écrit des essais.
Ah voilà,
ça j'en écris plein. Voilà. Mais voilà, ce livre-là aujourd'hui n'en est pas un.
Bon, en Égypte, vous vous sentez près de nous ou loin ?
C'est un pays très différent évidemment de la France, mais qui a des points communs.
Ça fait combien de temps maintenant ?
Ça fait non. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez du ramadan, de fait, il y a 12 ans, le ramadan n'existait pas tellement en France, on n'en parlait pas tant que ça, c'était encore très exotique. Aujourd'hui, on voit bien que ça fait partie des éléments de la vie de beaucoup de Français, même quand eux-mêmes ne le vivent pas, ils voient bien que ça existe sur le territoire, que c'est devenu quelque chose d'important.
Dans les grandes surfaces en particulier.
Oui, bien sûr, oui. Et ça, là-dessus, en Égypte, évidemment, c'est encore autre chose. Le ramadan est une réalité qui bouleverse absolument la vie du mois qui commence. Là, on est sur... la vie s'arrête, change tout à fait de rythme. C'est une expérience un peu différente. Là-dessus, on voit bien que l'Égypte et la France sont deux pays quand même encore assez éloignés.
Donnez-nous quelques indications de ce changement de vie chez les musulmans.
Alors, en Égypte, comme vous pouvez manger et surtout boire, en fait, la vraie difficulté est qu'on ne peut pas boire quand le soleil est levé. Et donc, on passe quand même la nuit, non seulement à manger et boire, mais aussi à faire la fête. C'est un temps très familial, qui a quelque chose à voir avec Noël chez nous. Les premiers jours, on se retrouve seulement en famille. Les gens peuvent être surpris. On se dit, mais tiens, il ne se passe rien dehors. C'est normal, parce que tout le monde est en famille, tout le monde est avec ses proches. Par la suite, au cours du mois, ça devient un peu plus vaste. On voit plus des amis, mais au départ, c'est très familial. Et comme la nuit, on ne dort pas beaucoup, la journée, où on ne mange pas, on ne boit pas, tout le monde est un peu au radar, et tout s'adapte. Les écoles font cours, mais assez mollement, et dans les entreprises, il est admis qu'on arrive plus tard et qu'on repart plus tôt. Voilà.
Vous êtes invité parfois par des musulmans, quand vous avez des liens avec des communautés sur place, vous êtes invité à cette occasion de
pour la rupture du jeûne, oui, tout à fait. Rarement au début du ramadan. C'est plutôt sur la fin. Au début, je vous disais, c'est très familial. Et de même qu'à Noël, en France, on n'invite pas forcément beaucoup d'amis. Mais là, c'est sur les dernières semaines de ramadan. En revanche, oui, on invite bien davantage. Et c'est là que moi ou les autres frères, nous pouvons être invités à des iftars, donc à des repas de rupture du jeûne, qui sont des moments très festifs, très agréables, où d'ailleurs la vie s'arrête. Il n'y a plus un magasin ouvert, il n'y a plus rien qui se passe dans la demi-heure qui précède la rupture du jeûne.
On vous questionne sur le carême ?
En Égypte, pas tant que ça. De fait, c'est le ramadan est un moment national qui touche absolument tout le monde par la force des choses. Le carême a beaucoup moins d'impact social. Les chrétiens représentent à peu près 10% de la population et leur pratique du jeûne du carême, qui est importante, est une marque sociale moins grande, notamment parce que le jeûne du carême, comme la plupart des jeûnes coptes, consiste essentiellement à ne pas manger de matière animale. Donc pas d'œufs, pas de lait, pas de viande, ce qui a beaucoup moins de visibilité. Mais il y a du coup, en revanche, des pâtisseries de carême qui sont faites à l'huile. Il ne s'agit pas tout à fait de se priver, mais on adapte l'alimentation.
Est-ce qu'il y a une concurrence spirituelle entre le ramadan et le carême ?
Heureusement non. Heureusement non. La coïncidence cette année des deux calendriers, puisque c'est un hasard de calendrier, doit nous inviter bien plus qu'à une coïncidence, peut-être à une émulation. Pas bien plus qu'à une concurrence, à une émulation. Je crois d'ailleurs que cette émulation, elle existe. On me disait hier soir à la librairie La Procure à Paris, la libraire me disait, j'ai eu depuis le début du carême beaucoup de jeunes précisément qui viennent, qui ne sont pas les habitués des librairies catholiques habituellement, et qui viennent en disant « Mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur le carême ? Parce que moi j'ai des amis qui font le ramadan, mais moi j'ai envie quand même de redécouvrir ma propre tradition, de comprendre comment vivre le carême pleinement. » Et là-dessus, je crois que ce n'est pas de la concurrence, ce n'est pas pour dire qui est le meilleur, mais bien pour vivre une émulation spirituelle. Quand on s'aperçoit que Dieu est présent et important dans la vie aussi d'autres croyants, ça peut nous interroger nous-mêmes et nous dire, mais au fait, où est Dieu dans ma vie ?
Qu'est-ce que vous dites à un musulman qui fait le ramadan ?
Ah, mais je lui dis Ramadan Karim, c'est-à-dire bon ramadan. C'est une manière de l'encourager. Après, moi, je n'ai pas de conseils spirituels à donner à quelqu'un qui vit le ramadan. Je remarque que certains peuvent le vivre de manière très festive ou très familiale, ce qui est respectable. D'autres peuvent le vivre de manière très spirituelle. Il y a toute une gamme sur la manière dont les musulmans que je peux connaître en Égypte vivent le ramadan. Ce qui est normal, c'est une religion et le rapport à la religion va être très différent d'une personne à une autre, d'un croyant à un autre.
Mais frère Candiar, qu'est-ce qui distingue les deux ?
Le carême et le ramadan ?
Oui.
Alors évidemment, ce qui les rassemble d'abord, c'est l'importance donnée à la pratique du jeûne, qui en islam est beaucoup plus codifié, beaucoup plus réglé. On sait quand on peut manger, quand on peut pas manger, ce qu'on peut manger. Enfin, tout ça est assez clair. En monde chrétien, on est sur une pratique qu'on a voulu, conformément d'ailleurs à l'esprit même du christianisme, spiritualiser davantage et sans en avoir une vision trop légale, trop légaliste. Mais l'importance du jeûne rapproche un peu les deux. C'est quoi l'idée du jeûne ? C'est que la spiritualité ne se vit pas simplement dans notre tête, mais aussi dans notre corps. que nous sommes des êtres concrets et qu'on a besoin d'inscrire notre foi en Dieu aussi dans le concret de notre vie. Et c'est vrai que commencer le carême par une journée de jeûne, c'est savoir qu'on l'a vraiment commencé. Ça ne se joue pas simplement quelque part dans notre âme ou dans notre cerveau. En revanche, une fois qu'on a dit ce rapprochement-là, à chaque fois le jeûne est servant à se rapprocher de Dieu, la signification n'est pas la même. D'abord parce que le carême, lui, est une préparation. C'est une préparation à la fête de Pâques. C'est un cheminement qui aboutit, qui est fait pour nous préparer à vivre pleinement ce qui donne tout son sens au carême, qui est le mystère pascal. Le ramadan a sa valeur pour lui-même. Alors que vivre le carême sans célébrer la mort et la résurrection de Jésus, ça n'aurait aucun sens.
Pensez-vous que ce temps du ramadan soit un moyen d'aborder avec les musulmans des questions relatives à la conversion personnelle et sortir un petit peu du marqueur d'appartenance sociale, du rituel islamique, etc., qui est une bonne chose communautaire en soi, après tout, ça fait partie des pratiques et des coutumes, mais aller au-delà de la coutume pour entrer dans une relation d'intimité avec Dieu. Est-ce que vous avez connu ou est-ce que vous connaissez des musulmans qui vont dans cette logique-là, une logique de progression intime?
Vous avez tout à fait raison. Le ramadan peut être vécu simplement même comme une contrainte sociale, comme un marqueur d'appartenance sociale. J'appartiens à un groupe. C'est tout à fait légitime, mais ça peut être même pour des personnes qui le vivent, finalement un peu oppressant ou un peu
étouffant, comme
étouffant.
Les dates.
Voilà. Bon. Mais heureusement, Dieu merci, c'est pas du tout le cas de tous. Et je connais de fait des croyants qui, alors là, une pratique assez courante consiste à se dire, je vais profiter du ramadan pour relire le Coran, et le relire dans une lecture personnelle, priante, qui, pour les croyants musulmans qui l'ont, va les rapprocher de Dieu. Ça peut être l'occasion, je connais des musulmans qui en profitent pour commencer par faire une retraite spirituelle, passer un peu de temps à se consacrer à Dieu, et qui fuient tout à fait, et qui s'agace, je pense à un ami en particulier, qui s'agace à chaque fois de la dimension grande fête que ça a dans la plupart des familles. Il dit, mais le ramadan n'est pas fait pour se gaver le soir à la rupture du jeûne. Alors lui-même mange très peu à la rupture du jeûne, je m'inquiète toujours un peu pour lui, parce qu'il dit, non, mais on n'est pas là pour... c'est pas parce qu'on jeûne dans la journée qu'il faut se rattraper. Non, c'est un temps de jeûne, c'est un temps de rapprochement avec Dieu, et donc, de fait, j'ai pu, à travers lui, à travers d'autres, connaître des ramadans extrêmement spirituels.
Frère Adrien Candiar, l'Algérie, pour parler des pays de cette côte méditerranéenne, a réprimé assez durement les églises évangéliques pour leur prosélytisme. Est-ce que vous avez une situation comparable en Égypte, ou est-ce que les choses sont beaucoup plus installées en raison de l'historicité de la communauté copte ?
En Égypte, effectivement, les communautés chrétiennes ne sont ni étrangères, ni issues de l'activité missionnaire de qui que ce soit. Et donc, elles font partie de la vie du pays. Donc, de ce point de vue, il y a à l'évidence une normalité de l'existence des chrétiens, ce qui n'exclut pas que leur statut de minorité puisse valoir à un certain nombre de chrétiens des formes de discrimination dans la vie quotidienne. Ça arrive, ça existe. Non pas que ce soit généralisé, mais ça peut se rencontrer. Mais, en tout cas, ça fait partie de la vie du pays. Là-dessus, il n'y a pas tellement de tension. Ensuite, quoi qu'il en soit, même si la loi ne le réprime pas en tant que tel, la société égyptienne est très peu ouverte à ce qui peut apparaître comme des changements de religion. Ça, c'est certain. Et donc, la religion en général est une question en tension. C'est une question sensible pour le pays et pour les autorités. Et de fait, tout ce qui peut apparaître comme du prosélytisme n'y est pas forcément le bienvenu.
Mais cette tension, vous la travaillez avec des relations avec l'université Al-Azhar, par exemple ?
Tout à fait.
Parce que l'IDEO est en première ligne là-dessus.
Absolument. Je pense que c'est pas parce que les questions religieuses peuvent être perçues comme dangereuses qu'il faut cesser d'en parler. Au contraire, on a besoin d'apaiser les choses entre croyants, en se parlant et en ne faisant pas... Je crois que faire sortir les questions religieuses du débat public en se disant on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est en fait se préparer des lendemains beaucoup plus difficiles. On a besoin au contraire de rationaliser non pas la croyance, mais nos relations et nos façons de nous parler de Dieu.
Comment mesurez-vous l'influence des dominicains dans cette sphère intellectuelle ?
On a la chance, dans ce pays qu'est l'Égypte, d'avoir eu de grands aînés qui ont très bien travaillé. L'IDEO, notre institut de recherche que vous mentionniez, existe depuis l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Et on a eu des personnages, notamment Georges Anaouati, qui était lui-même égyptien, qui ont joué un grand rôle dans la vie intellectuelle de l'Égypte. Et on est héritier aussi de tout ça. On est, comme disait Fulbert de Chartres, des nains sur des épaules de géants. Eh bien, on en profite.
Il y a l'école biblique de Jérusalem, également des Dominicains. Ce n'est pas loin.
Ce n'est pas loin géographiquement, puisque le Caire Jérusalem, c'est, je crois, plus proche que Paris-Lyon. Politiquement, c'est un peu plus loin. Et il n'est pas si simple d'aller d'un pays à l'autre. Voilà, même si, évidemment, on se sent proche pour bien des raisons. La politique nous a un peu éloignés dans les faits.
La situation actuelle en Terre Sainte fait que vous passez des coups de fil davantage pour savoir comment ça se passe, non ?
Alors, à Jérusalem même, la vie est assez tranquille. Autant qu'elle peut l'être dans un pays qui traverse ce conseil, mais il se passe peu de choses à Jérusalem même. Donc aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas très inquiet pour ce que vivent les frères. Évidemment, on est inquiet pour ce qui se passe dans ce pays qui occupe, je dois dire, toutes les conversations en Égypte. Tout le monde, depuis le 7 octobre 2023, ne parle que de ce qui se passe à Gaza. C'est vraiment très, très, très présent dans la vie de tout le monde, y compris dans le dialogue interreligieux, quand on parle avec Al-Azhar. Le premier sujet qui est abordé constamment, quel que soit le motif de la rencontre, quel que soit le sujet prévu, on est là pour parler de soufis médiévaux, etc. Et puis, en fait, on va parler de Gaza.
Gaza au cœur de toutes les discussions, c'est le cas en ce moment avec un sommet arabe qui se tient justement sur le sujet et Donald Trump aussi qui a mis les pieds, on peut dire, pieds joints dans la question. Merci beaucoup frère Adrien Candiar.
Merci à vous.
On doit à présent se quitter et je rappelle que vous êtes frère dominicain vivant au Caire, membre de l'Institut dominicain d'études orientales, l'IDEO. Et puis votre roman, Maman voudrait que je croie en Dieu, aux éditions du Cerf. À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup. Louis Dauphren, on vous retrouve à partir de 9h10 pour le débat du jour. Mais d'abord, la prière du matin sur RCF et Radio Notre-Dame. Très bon réveil.